Let's go, Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich en finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Et même si les Allemands ont impressionné jusqu'à présent, même s'ils ont plus d'expérience, même s'ils sont invaincus depuis 29 matchs, les Parisiens ont de nombreux atouts pour ramener la Coupe aux grandes oreilles.
Eh bien non, encore raté. Après les Verts de Saint-Etienne, le PSG lui aussi s'est cassé les dents l'été dernier sur le Bayern Munich, privant les Parisiens du sacre européen, ce maudit Bayern Munich. Club allemand dont les Français connaissent assez mal l'histoire. D'abord décrété club juif par les nazis, il fut arianisé et décapité avant de devenir ensuite une incarnation du miracle économique ouest-allemand après la Seconde Guerre mondiale. On ignore souvent, oui, que le Bayern porte en lui la mémoire de l'Allemagne au XXe siècle. Ce soir donc, trois invités au micro d'Inter pour nous immerger dans l'histoire du Bayern Munich. Tout d'abord, après 8 saisons sous le maillot rouge entre 1997 et 2006, il est champion du monde bien sûr. Il est devenu par ailleurs un des grands ambassadeurs du club. Vicente Lizarazu, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. À vos côtés, historien, parisien, fin connaisseur du football européen, c'est toujours un plaisir de l'accueillir ici. Fabien Archambault, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Et enfin, nous rejoindra dans 5 minutes l'éditeur et journaliste sportif Jean-Philippe Bouchard. Et puis, juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio ce soir, portrait d'Estelle Enzeminko, handballeuse française et mélomane. Vous êtes bien sur Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, le Bayern Munich, 120 ans d'histoire européenne.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. La semaine passée, nous enterrions Maradona. Hier, ce fut au tour du président Giscard. Deux hommes, deux destins distincts. Et pourtant, il y a un lien qui les unit, le football. Nous étions le 4 juin 1973, in memoriam.
On attendait l'événement depuis plusieurs jours à Chamalières, le match de football entre les commerçants de la ville et l'équipe du conseil municipal avec le maire à sa tête, bien sûr, monsieur Valéry Giscard d'Estaing, fidèle au rendez-vous de ce dimanche matin. La foule était là également, 3000 personnes au moins lorsque les équipes se présentèrent, de quoi faire rêver le trésorier du club de football chamaliérois. Les commerçants à droite en première mi-temps étaient bien décidés à ne pas s'en laisser compter par le ministre des Finances et ils dominaient ce début de match après cette attaque spectaculaire. Mais coup de théâtre à une minute de la fin. À la suite d'une action confuse devant les buts commerçants, l'arbitre accordait un pénalty à la mairie. Le premier magistrat n'allait laisser à personne le soin de faire justice. Score nul donc deux partout, les deux équipes avaient pourtant bien gagné une bonne douche.
Ben vous avez vu que c'était un match assez dur, il y a eu des heurts. Mais enfin c'était très correct et j'ai remarqué que la foule auvergnate n'était pas venue sur le terrain.
Dans un bon esprit, vous avez réussi le pénalty qui a fait le match nul. Votre équipe était menée 2-1, je pense.
Oui,
que,
alors nous tenions beaucoup, si vous voulez, à ne pas nous faire enfoncer. Après ça, nous avons pris un jeu défensif pour garder l'égalisation. 2-2, c'est une marque tout à fait classique d'un vrai match de football.
Extraordinaire. C'était l'hommage du Tigre au président Giscard, le milieu récupérateur, comme l'a sournoisement surnommé le magazine SoFoot hier. Bien, après Chamalières, direction la Bavière, voici l'histoire du dimanche soir. L'histoire commence le 27 février 1900, au Gisela, restaurant bourgeois en plein cœur de Munich. Là, à la fin du déjeuner, 17 jeunes hommes, la plupart non bavarois, c'est important, signent ensemble les statuts d'un club de sport qui prend le nom de MTV München. À l'époque, la capitale bavaroise compte 500 000 habitants, dont quelques étudiants qui arrivent de Saxe et de Prusse, région de l'Est et du Nord de l'Allemagne. Étudiants donc qui se réunissent dans ce petit club qui s'installe dans le Schwabing, quartier d'artistes et d'intellectuels munichois. Personne ne se doute alors du destin qui attend ce petit club de football, rebaptisé Bayern Munich en 1923.
C'est devenu le plus grand club d'Allemagne, puisque au début du siècle, il y en avait d'autres, notamment concernant le football, comme Schalke 04 ou Nuremberg. Le football de la Ruhr dominait à l'époque, mais nous avons vu dans la deuxième moitié de ce siècle, donc, surtout avec la création de la Bundesliga, la montée irrésistible du Bayern. C'est un club qui s'appelle Bavière de Munich, donc une identification avec le Land de Bayern et avec sa capitale Munich. tradition, modernité, succès.
Michel Delezarazu, je le disais en introduction, vous avez passé 8 saisons sous le maillot du Bayern Munich, dont de nombreux titres et une Ligue des Champions en 2001. C'est un club où vous êtes resté très proche aujourd'hui. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce triptyque ? Tradition, modernité, succès. Ça vous convient pour définir le Bayern ?
Totalement. C'est parfaitement clair, c'est parfaitement adapté. Tradition parce que la culture bavaroise, elle est très forte là-bas et chaque année, la tradition, c'est d'aller à la fête de la bière et puis c'est assez festif quand on gagne des titres. Le succès, évidemment, le Bayern n'arrête pas de gagner des titres et c'est très impressionnant. On a gagné 6 Ligues des Champions.
Lisa, il dit « on hein, ».
Mais ouais, là, je peux le faire parce que quand je suis commentateur, je ne peux pas le faire. Mais là, je le fais parce que j'ai eu deux clubs dans ma vie vraiment importants, c'est Bordeaux et le Bayern.
Bien sûr.
Et 30 titres de champion d'Allemagne, donc c'est un palmarès incroyable. Donc il y a ce succès-là. Et le troisième mot,
c'était modernité.
C'était modernité, oui, parce que il s'est adapté à l'évolution du football. C'est devenu aussi une entreprise, et c'est assez rare dans le foot, qui génère des profits, parce que la plupart des clubs génèrent des pertes et sont très endettés.
Et des dettes gigantesques,
et
bien
donc
sûr.
C'est un modèle économique qui fonctionne très bien, c'est l'un des meilleurs modèles économiques, c'est un modèle à tout point de vue, sur le plan sportif, sur le plan économique, et même sur le plan, on en parlait peut-être tout à l'heure, de la relation avec les supporters. Quoi. Donc voilà, j'ai eu la chance de vivre dans ce club-là des années fantastiques.
Fabien Chambaud, vous êtes historien à Paris 1. Je vais juste revenir un tout petit peu sur les origines hein, de ce club. Je précisais en introduction qu'il y avait donc 17 jeunes hommes qui avaient signé une sorte de protocole pour créer un premier club. J'ai dit des gens de la Saxe, de la Prusse. Je n'ai pas dit qu'il y a aussi beaucoup de juifs allemands parmi ces signataires, dont un monsieur qui s'appelle Kurt Landauer, qui est un personnage très important. Qui était-il, Fabien, et qu'est-ce qu'il raconte de l'époque ?
Alors, c'est un commerçant juif, comme vous le dites, donc qui est d'abord joueur, qui est joueur-entraîneur, qui devient président, et il le restera, on verra ça tout à l'heure, hein, jusqu'à ce que Hitler prenne le pouvoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un commerçant, donc ça veut dire qu'il est, il a un horizon cosmopolite. Alors, il n'est pas comme les autres qui ont fondé le club, qui, eux, viennent, vous l'avez dit, de Saxe, de la Ruhr, de Berlin, qui sont en gros les zones industrielles, et donc dans le cadre de l'industrialisation de l'Allemagne après l'unité, c'est la seconde révolution industrielle, donc des liens avec l'Angleterre. Donc en général, c'est les ingénieurs, c'est les courtiers d'assurance, c'est les étudiants qui sont allés en Angleterre, qui ont ramené ce sport-là. Donc un sport de classe moyenne, urbaine, lié à l'industrialisation. Lui, Landauer, il n'est pas allé en Angleterre, il est allé en Suisse, qui est une sorte de tête de pont pour la diffusion du football en Europe. Il y croise par exemple Vittorio Pozzo, qui est un étudiant italien et qui ramènera le football en Lombardie. Ce sera l'entraîneur de la grande équipe d'Italie dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est un commerçant, donc il est comme, en gros, ces jeunes bourgeois qui sont fascinés par ce sport, et c'est un juif. Donc là, ça renvoie à quelque chose sur pourquoi est-ce que le football ne marche pas en Allemagne au départ. C'est parce qu'il y a une autre activité physique qui est très importante pour la culture allemande, pour l'identité allemande, qui est la gymnastique, qui est considéré comme l'activité physique qui va permettre d'incorporer la nation.
D'où un sport patriotique.
D'où on se méfie du football. Mm-hmm. Parce qu'il est déjà professionnel.
Et il est un peu considéré comme étranger, quoi.
Hein. Il est étranger, mm-hmm. puisqu'il est anglais. Mm-hmm. Et il est professionnel déjà en Angleterre.
Alors
et
est-ce
que l'amour de la patrie peut être commercialisable? Mm-hmm. Donc les clubs de gymnastique refusent les étrangers. Et à la fin du 19e, le nationaliste allemand devient très antisémite avec la ligue antisémitique. Il est très virulent. Et donc Landauer, donc, tous les juifs font de la gymnastique. Mais la fondation du Bayern, ça répond à le TSV München 1860, donc qui est le vieux club de gymnastique nationaliste de Munich, qui est interdit aux étrangers, qui n'est pas interdit aux juifs, mais on se méfie des juifs. Et donc un an après, les juifs, enfin, certains juifs de Munich, créent un club qui est d'abord sur le football, donc qui montre qu'ils sont méfiants par rapport à ce nationalisme allemand et ils ont un horizon cosmopolite, à la différence de leurs compatriotes qui, eux, sont très gymnastes.
Et donc Fabien, dès 1933, dès la prise du pouvoir par le NSDAP, donc le parti nazi et Hitler, il est considéré, montré du doigt comme un club juif. Et donc la vie du Bayern sous le Troisième Reich, ça va être un long, très long calvaire. Il va être très, très mal mené, ce Bayern de Munich.
Oui, alors là, on peut faire la comparaison avec Munich 1860, qui est pris en charge par les SA.
Donc, il y a les sections d'assaut.
Mmh. Donc, il y a un club nazi. Donc, Landauer, il y a des persécutions. Donc, Landauer doit démissionner. En 38, après la nuit de Cristal, il est interné pendant un mois à Dachau. Donc, il y a le camp de concentration dans la banlieue de Munich. Donc, ensuite, il s'exile en Suisse, où il a des contacts. Mais sa famille reste à Munich et ils sont tous morts dans des camps d'extermination. Il y a d'autres juifs du club qui sont morts aussi dans les camps. Il y a des problèmes économiques, c'est-à-dire que comme ce qui finance l'association footballistique du Bayern, c'est les commerçants juifs qui se reconnaissent dans ce club-là, comme ils sont tous, leurs magasins sont confisqués.
Organisés, etc.
Donc le siège du club est bombardé, il n'y a plus tellement de cotisations qui rentrent. Et le régime se méfie toujours de ces joueurs qui sont beaucoup, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes, des jeunes, il y a plusieurs niveaux, etc. Et par exemple, ils organisent un match en Suisse en 1943 où il y a Landauer qui vient dans les tribunes.
En tribune, voir son équipe, voir ses gamins quasiment. Quoi.
Et les joueurs le saluent. Mm-hmm. Et donc il y a la Gestapo qui dit vous allez voir ce que vous allez voir. Et donc il les envoie sur le front de l'Est. Mm-hmm. Donc il y a une cinquantaine de joueurs qui meurent sur le front de l'Est alors que leurs collègues de Munich 1860, eux, ont passé la guerre.
Un service obligatoire de travail à Munich. Exactement. Vicente, là, on est sur une histoire qui est très ancienne du Bayern Munich, qui avant la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que au club, est-ce que dans les anciens, dans l'entourage, est-ce que c'est important l'histoire qu'on peut transmettre aux jeunes générations ou aux joueurs comme vous qui arriviez de Bordeaux? Est-ce que on transmet l'histoire du Bayern de Munich? Est-ce que ça reste
totalement,
un peu discret?
Totalement. Alors peut-être pas si loin.
Ouais, pas aussi loin.
Mmh. C'est vrai que moi, l'histoire que je connais particulièrement bien, elle démarre plutôt dans les années 70 avec Beckenbauer, avec Sepp Maier, avec Gerd Müller. Quoi, c'est les, on va dire, les premières grandes deux heures du Bayern au niveau européen, trois Ligues des Champions, ils ont pris la succession de l'Ajax Amsterdam. Et c'est à ce moment-là que, je pense, le Bayern devient mythique en Europe. Quand on est joueur du Bayern, on porte quelque chose qui va au-delà de nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai gagné la Ligue des Champions, dans le bus, il y avait Franz Beckenbauer, il y avait Ulionès, il y avait Rummenigge. Mm-hmm. Et donc, quand t'as des mecs comme ça qui sont là et qui ont gagné beaucoup de choses avec le Bayern avant, comment te dire, tu sais que t'es dans un club différent, quoi. Ah, oui. Et puis la particularité, on en a pas parlé tout à l'heure, c'est que c'est un des rares clubs où il y a des anciens joueurs qui sont devenus de très grands dirigeants.
C'est ça que je parlais aussi.
Donc c'est pour ça qu'ils incarnent. Absolument. Aujourd'hui, t'as les présidents de clubs qui connaissent rien au foot, qui connaissent
aujourd'hui
rien.
Aujourd'hui, c'est Karl-Heinz Rummenigge qui dirige le club.
Ouais.
Donc, qui est une grande vedette du Bayern. Quand vous y étiez, c'était Franz Beckenbauer qui était le patron du club.
Franz Beckenbauer et Ulionès qui a toujours été là. Donc, d'avoir des gars comme ça, en fait, tu ça vibre au Bayern. Et donc, l'histoire, elle est puissante. Il y a plein d'anciens joueurs qui bossent au club. Donc, ça te ramène toujours à l'histoire du club. Et chaque année, tous les anciens joueurs sont invités pour fêter les titres, comme tu les fêtes chaque année. Quasiment
comme
deux fois
à chaque fois.
Donc, du coup, tu peux pas passer à côté de cette grande histoire, et on nous lit. C'est-à-dire que c'est pas essayer de comparer les générations, est-ce que cette génération était plus forte que l'autre, c'est que on amène des titres à ce club pour construire la grande histoire du Bayern. Comme avec l'équipe de France, par exemple. Mmh. C'est pas opposé 98 à 2020. C'est, on construit la grande histoire de l'équipe de France. Après, c'est des raisonnements, mais là-bas, c'est comme ça. Et donc, on nous lie tous, on est tous liés. Et derrière nous, c'est la génération Müller, Ribéry, et Neuer, par exemple. Et donc, et on incarne tout ça. Et nous, on est tous contents quand le Bayern gagne des titres, quelles que soient les générations.
Jean-Philippe Bouchard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous, vous aussi, vous êtes ancien journaliste à l'équipe, devenu éditeur, entre autres, et auteur. Vous publiez un livre qui s'appelle Bad Boys du foot. C'est Solar. C'est une coédition de l'équipe Solar, d'ailleurs. Vous connaissez très bien le football allemand et le Bayern, Jean-Philippe. Aujourd'hui, c'est devenu un très, très grand d'Europe. Vicente vient de le rappeler. Quelle place il occupe dans le paysage européen, justement? Il a une place à part, quand même, ce Bayern, non?
Ah, il est dans le top, on va dire, dans le top 5 des clubs européens. Il est toujours au rendez-vous. Et ce qui est particulièrement étonnant, enfin notable avec le Bayern, c'est que ils ont réussi à ne pas avoir de trou d'air. C'est-à-dire que depuis les années 80, on va dire, il y a eu un trou d'air après la grande époque des années 70, mais depuis le milieu des années 80, le Bayern est systématiquement au rendez-vous. Et ça, c'est très très rare dans le football européen, parce que la plupart des clubs ont des trous, des années de vaches maigres, des fossés de génération, et le Bayern est arrivé à une relative stabilité. Alors, il ne gagne pas la Coupe d'Europe chaque année, mais il la gagne régulièrement, il est toujours au rendez-vous, et pratiquement systématiquement dans le dernier carré ou en quart de finale. Et donc, forcément, il y a des titres qui tombent, et la légende, l'histoire continue de s'écrire de manière perpétuelle, en fait.
Fabien Chambaud, évidemment, c'est un grand club européen, on vient de l'entendre à deux reprises. Et pourtant, au départ, c'était pas évident que le football prenne en Allemagne, hein, tu l'as un peu rappelé, mais et c'est y compris pour le Bayern, parce que ce qui change la donne, il faut bien le comprendre, ça revient, c'est la victoire de l'Allemagne de l'Ouest en Coupe du Monde 54. Ça a changé beaucoup de choses en Allemagne, y compris pour le Bayern. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
C'est alors une Allemagne qui sort de la Seconde Guerre mondiale, qui est vaincue et qui reprend place dans le concert des nations comme victorieuse de quelque chose.
Oui.
Donc c'est pour ça que ça s'est appelé la Wunder von Bern, donc la surprise, le miracle de Berne.
C'était en Suisse, la finale a lieu en Suisse contre la Hongrie.
La Hongrie, donc deux équipes amateurs d'ailleurs, c'est la dernière finale de Coupe du Monde qui joue entre deux équipes amateurs, et tout de suite est interprétée dans toute l'Allemagne, dans la culture populaire, comme Wir sind wieder wer, nous sommes de nouveau quelqu'un, nous sommes redevenus ce que nous sommes. Alors il y a eu un peu de, on va dire de, c'est-à-dire que la partie la plus réactionnaire ou conservatrice de la société a fêté ce titre, par exemple à Munich, dans une brasserie, quand l'équipe revient en Allemagne, avec des accents patriotiques et nationalistes qui rappelaient le Troisième Reich. Mais là, tout de suite, la radio bavaroise a coupé la retransmission en disant que c'était inacceptable de parler comme ça. Mais plus généralement, c'est le football devient la seule expression autorisée de l'orgueil patriotique allemand. Et c'est une Allemagne qui tourne définitivement la page, qui est tournée vers l'avenir, qui est victorieuse et qui est moderne. Et donc le football va incarner ça et va, à partir de ce moment-là, se diffuser dans toute la société.
Il faut dire, Fabien, que c'est la seule structure en Allemagne de l'Ouest à l'époque qui a autorisé à avoir l'adjectif national. On dit Nationalmannschaft. Et c'est la seule structure qui a le droit de porter cet adjectif qui est évidemment très compliqué dans la psyché allemande.
Oui, tout à fait. C'est les puissances alliées qui occupaient l'Allemagne ont tout régionalisé. Donc on parle de Bundes, enfin c'est le Bund en Allemagne. Tout est fédéral, sauf une institution, la radio, la télévision, etc. Sauf une institution, l'équipe de nationale.
Ça dit quand même beaucoup de choses.
Ça dit beaucoup de choses.
Donc la Bundesliga, qui est donc le championnat de football allemand, est créé en 63. Le Bayern y participe évidemment dès le départ. Il y a un entraîneur qui arrive là. Le premier entraîneur du Bayern s'appelle Zlatko Kaschkowski. Il est yougoslave. C'est assez rare pour un club allemand, finalement, à l'époque, d'avoir un joueur qui vient de l'étranger. Ça dit quoi? Est-ce que ça raconte le passé, déjà, ou le tropisme internationaliste du Bayern Munich?
Totalement. À Munich 1860, à l'origine, les joueurs et entraîneurs étrangers étaient interdits. Dès l'entre-deux-guerres, le premier titre, on va dire, allemand, en 1932, était avec un entraîneur juif autrichien. Originaire de l'ancien empire d'Autriche-Hongrie. Donc il y a trois raisons pour lesquelles on va chercher cet ancien joueur yougoslave. La première, c'est qu'il est philosémite, c'est-à-dire qu'il a fini sa carrière à Haïfa, en Israël, ce qui est très rare pour un professionnel européen. La deuxième chose, c'est qu'il est originaire de Yougoslavie. Et la Yougoslavie, c'est un savoir-faire d'un régime socialiste qui met en place une pratique sportive de masse pour les jeunes pour faire émerger une élite qui soit compétitive au niveau international. Donc en gros, c'est des spécialistes de la formation de joueurs. Et pourquoi est-ce que Munich a besoin de la formation de joueurs? C'est que, comme vous l'avez dit, c'est encore l'amateurisme. Le professionnalisme est autorisé seulement en 1963. Et donc il y a un problème d'argent, en fait, pour faire fonctionner le club. Et là, les dirigeants du Bayern Munich se disent, notre seule manière d'être compétitif, par exemple, face à Munich 1860, qui a l'appui de la grosse bourgeoisie de Munich, de la ville de Munich, c'est la formation. Et donc, ils développent un système de formation à l'échelle de toute la région. Et c'est dans ce cadre-là qu'on lance Beckenbauer, Breitner, etc.
On va y revenir à Breitner et Beckenbauer.
C'est marrant, chanter. Munich 1860, parce que bon, à mon époque, beaucoup de derby contre Munich 1860 quand ils étaient en première division. Et eux, c'était le petit club et nous, on était déjà le grand club. Ça s'est vraiment inversé, quoi.
Michente, vous avez un côté allemand en vous, je pense. Vous avez été tellement heureux en Allemagne. Non, mais c'est vrai, on sent que ça a été un moment génial pour vous, ces 8 ans passés au Bayern. Comment est-ce qu'on y pense, le football, le Bayern Munich? Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, là-bas, en tant que joueur de très, très haut niveau, hein, champion du monde, champion d'Europe? Qu'est-ce qu'on y trouve quand on aime autant le football que vous? Qu'est-ce qu'on trouve au Bayern? C'est quoi la philosophie du football au Bayern?
Ça a été une révélation pour moi, en fait. Moi, je suis frontalier, donc je suis plus proche du football espagnol. Mm-hmm. Logiquement, je suis latin, je suis du sud-ouest. Mais quand je suis arrivé là-bas, en fait, j'ai aimé la façon de penser. C'est-à-dire que, d'abord, c'est professionnel, c'est pragmatique, c'est convivial. Ça se prend pas la tête. La façon d'appréhender les grands moments, les grands matchs, a été une grande révélation pour moi. C'est-à-dire que j'ai vu à la fois une grosse détermination et une grande décontraction. Avec le Bayern, j'ai pas le souvenir sur des finales d'avoir raté des finales. Mmh. On en a perdu une en 99, mais on l'a pas raté ce match. Et il y a un savoir-faire de se mettre dans des conditions psychologiques pour jouer les matchs à très grosse intensité, on va dire. Et donc là-bas, ouais, c'est un club qui est fait pour moi parce que il correspondait à l'ambition que j'avais, à la détermination que j'avais, à la vision que j'avais du métier, du professionnalisme, à la rigueur qu'il faut pour faire du sport de haut niveau. Et voilà, et j'étais super bien reçu. C'est très amical, c'est très familial, et une grande liberté aussi. Ils m'ont laissé une grande liberté, c'est-à-dire qu'il y avait plein de joueurs étrangers déjà à mon époque, plein de Sud-Américains, et chacun était différent, venait de cultures différentes, et en même temps, voilà, ce qui était important, c'est que tu bosses à l'entraînement et que tu sois bon sur le terrain. Le reste, tu fais ce que tu veux. Mais si t'es bon à l'entraînement, sur le terrain, pendant les matchs, t'es respecté là-bas. Et donc, je me suis senti bien, et puis les années, j'ai commencé à les compter, quoi. Et puis c'est 8 ans et demi même.
8 ans et demi, absolument. Un mot sur les supporters, Michente, parce que il y a un engouement gigantesque autour de Bayern. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le club qui, je crois, a le plus de socios aujourd'hui au monde. Il y en a 300 000, près de 300 000. C'est plus que le Real, c'est plus que le Barça. C'est au-delà de la Bavière. Hein. C'est-à-dire que le Bayern Munich, c'est l'Allemagne qui est d'ailleurs son pays. Enfin, l'Allemagne, d'ailleurs, toute l'Europe. Il y a des clubs de supporters partout dans le monde du Bayern Munich.
Le Bayern joue tous ses match à guichet fermé. Oui, alors c'est vrai que c'est pas limité à Munich, c'est pas limité à la Bavière, il y a des supporters partout en Allemagne, et en même temps aussi, il y a des supporters qui nous détestent parce que...
Vous trustez tout.
Comme le Bayern gagne très souvent à la fin, mais c'est vrai qu'il y a une relation avec les supporters qui est assez extraordinaire, c'est ce que j'ai aimé aussi en Allemagne. Il y a un rapport, je trouve, qui est assez sain entre supporters. C'est-à-dire que j'ai très peu vu d'agressivité, de conflits entre supporters, ou d'être vraiment très très mal reçu chez l'adversaire. Et pareil, la convivialité qu'il y a. Moi, c'était le Stade Olympique de Munich. Après, c'est devenu l'Allianz Arena. Mais la convivialité, la relation qu'il y a avec les supporters. Et puis on nous demandait aussi de créer ce lien-là. C'est-à-dire que chaque année, on organisait des rendez-vous avec les supporters. On partait au fin fond de la Bavière pour aller voir des fan clubs. Donc il y avait des fan clubs partout, et on demandait à chaque joueur d'aller voir le fan club. Donc tu te retrouvais dans une salle des fêtes avec 10 000 personnes, ambiance bavaroise, imaginez bien, avec la bière qui coule à flot, la musique bavaroise, et tu fais des milliers d'autographes, de photos, et c'était extrêmement convivial. C'est parfois dans le foot, il y a les supporters peuvent manquer de raison, je trouve, par passion. Et je trouve que en Allemagne et au Bayern en particulier, il y a une certaine mesure qui fait que c'est assez agréable, et la relation est très agréable et simple.
On va faire une pause musicale sur ces bons mots de Michente Lizarazu, avec un titre qui nous arrive de la perfide Albion, avec une de ses perles, l'anglaise Georgia Smith, le titre joué Come Over.
Tell me what I did this time. Why is it I work so hard for you? I wish I could read your mind. I don't know if you want me to come over. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. Is something that I'm used to. I give too much, but I choose to. And your love.
you and you know that. Yeah, you know that. And you, what's on your mind? That I wouldn't think it's something I've done. No. If you gave more of your time, yeah, we both, I just get what we want. I'm too scared to love me. Tell me what I did this time. Why is it I work so hard for you? I wish I could read your mind.
If you want me to come over,
I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. Something that I'm used to. I give too much, but I choose to. And you love that. Yeah, you love that. I don't know what you have been through, but I work too hard not to lose you. And you know that. Yeah, you know that. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. Me to come over, don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over.
L'œil du tigre.
La frappe de Dominique Battenet. La tête de Jacques Santini. Et les maudits poteaux carrés entrent dans l'histoire du foot français ce 12 mai 1976.
Philippe Collin.
Les Stéphanois s'inclinent 1-0 face au Bayern de Munich. Cette finale de Coupe d'Europe à Glasgow reste 40 ans après une fêlure pour les Verts de 76.
Sur France Inter.
Durant les années 70, le Bayern Munich règne en maître sur le football européen avec notamment 3 victoires consécutives en Coupe d'Europe des clubs champions, aux dépens entre autres de la génération dorée des Verts de Saint-Etienne, finaliste malheureuse à Glasgow en 1976. Il faut dire qu'à l'époque, l'équipe munichoise réunit à elle seule une grande majorité des meilleurs joueurs du monde à leur poste, à commencer par celui qu'on a surnommé Der Kaiser.
En 1970, Franz Beckenbauer est déjà une star. C'est avec la clavicule déboîtée qu'il dispute toute la prolongation d'une inoubliable demi-finale face à l'Italie. Devenu libéraux, Franz Beckenbauer utilise sa technique au-dessus de la moyenne pour orienter le jeu, comme le prouvent ses ouvertures de plus de 60 mètres. Une frappe de l'extérieur du pied droit qu'il maîtrise parfaitement au point de s'en servir pour tirer les coups francs directs. Défenseur intraitable, Kaiser est aussi le patron du Bayern de Munich. Ses coups de gueule et surtout ses coups de génie ont permis au club allemand de régner sur l'Europe de 1974 à 76. 3 victoires consécutives en Coupe d'Europe des clubs champions, dont 2 qu'on n'est pas près d'oublier du côté de Saint-Étienne. En 1976, Franz Beckenbauer reçoit le dernier trophée de sa carrière. Il obtient également cette année son 2e ballon d'or européen.
Vicente Lizarazu, vous avez gagné une Ligue des Champions avec le Bayern de Munich en 2001. Le patron, le grand patron de l'époque, c'était Franz Beckenbauer.
Il me fait venir au Bayern, c'est lui qui me
c'est
fait
lui.
Venir.
Oui,
il était l'entraîneur du Bayern.
Absolument.
Quand on a joué en finale de la Coupe de l'UEFA en 96.
Voilà, c'est Bordeaux, les Girondins contre le Bayern.
Exactement.
96, vous perdez la finale malheureusement contre le Bayern. Et donc Franz Beckenbauer vous fait venir à Munich. Quel souvenir vous en avez, vous, en tant qu'homme? Il vous impressionnez, mais c'est qui Franz Beckenbauer?
C'est un charisme incroyable. J'ai rarement vu ça chez un footballeur. C'est un immense joueur, évidemment. L'un des plus grands. Quand on parle des plus grands joueurs de l'histoire, on a parlé de Maradona.
Franz
en fait partie. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, c'est une personnalité, c'est une réussite dans sa reconversion. Il a tout réussi. Il a gagné des titres comme entraîneur. Il a été président du Bayern. Il a une après-carrière extraordinaire. Alors là, ces derniers temps, on le voit moins parce qu'il a eu une grande peine familiale. Il a perdu un enfant, donc il s'est mis un petit peu en retrait. Mais c'est quelqu'un qui a une aura. Il y a de la lumière autour de lui. C'est difficile d'exprimer ça, mais voilà, et c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant qui a toujours eu des mots sympas pour moi, et je lui dois beaucoup de choses. Et je sais que c'est quelqu'un qui restera pour moi l'un des plus importants personnages du Bayern.
Très bien, Chambou, il y a évidemment que Beckenbauer, ok, le Kaiser, etc. Évidemment, il est très important. Il y a un autre personnage dont on parle moins, je trouve, au Bayern, qui est Paul Breitner, qui est un personnage très important parce qu'ils sont tous les deux ensemble dans les 70s au Bayern Munich. C'est un défenseur, Paul Breitner. Il porte une coupe afro. Il est blanc de peau, mais il a une coupe afro. Qui était Paul Breitner et qu'est-ce qu'il racontait de l'époque, lui aussi, Fabien?
Bah, c'est, comme vous le dites, c'est un des meilleurs joueurs allemands de la décennie 1970, voire une partie des années 80, que ce soit au Bayern de Munich ou en équipe d'Allemagne. Donc il a un palmarès impressionnant. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est cette génération du baby-boom allemand qui devient une icône de la contre-culture allemande. Donc ce qui montre que la grève du football a pris. C'est-à-dire qu'elle peut s'incarner dans un joueur de football. Et donc, bah, il véhicule tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il est antimilitariste, opposé à la guerre du Vietnam. Il porte la barbe en hommage au Barbudos de la Havane. Il pose au début, donc il est très jeune, à 19 ans, il est titulaire au Bayern de Munich. Il pose après les matchs avec le petit livre rouge de Mao. Il dit en interview qu'il lit régulièrement Marx et Lénine. Il précise pas si c'est dans le texte pour Lénine, etc. Donc, c'est vraiment toute l'extrême gauche allemande qui se reconnaît en partie dans Breitner. Il y a aussi une dimension économique. C'est-à-dire que c'est cette génération qui a porté le SPD au pouvoir, qui arrive avec Willy Brandt seul au pouvoir en 1969.
Parti socialiste allemand.
Sur le thème, il faut redistribuer les fruits de la croissance économique. Et donc, en gros, qu'il faut augmenter les salaires des classes moyennes et des
classes
populaires.
Nous sommes travailleurs du football, nous avons droit à un salaire.
Exactement. Mmh. C'est tout travail mérite salaire. Et donc, il n'y a pas de raison que nous, qui sommes des joueurs professionnels, ne touchons rien. Et notamment, ce qui l'oppose à Beckenbauer, c'est cette affaire des primes en équipe nationale. Donc, ce qui lui vaut la haine de la presse conservatrice, finalement. Ce vieux soupçon qu'on avait sur le football, c'est-à-dire est-ce que l'amour de la patrie est négociable, avec Breitner, oui. Si vous faites de l'argent avec nous, il n'y a pas de raison qu'on ne touche pas une partie de cet argent. Alors évidemment, il y a aussi des contradictions, c'est qu'il est d'extrême gauche, mais en 1974, il quitte Munich pour aller jouer au Real Madrid, alors que la dictature franquiste est finissante, certes, mais elle est toujours là.
Elle est toujours là, oui, évidemment. Vicente, quelle place il a, Breitner, dans la mémoire du club? Est-ce qu'il est, il est par là, dans la galaxie? Est-ce qu'on en parle un peu? Ou est-ce
qu'il est par là, mais c'est vrai qu'il a souvent été en conflit.
Oui.
Donc avec Franz, avec le club, il a eu des périodes où s'est éloigné. Et là, il a été pendant longtemps l'ambassadeur du club à l'étranger. Là, il est à la retraite maintenant. Oui. Mais bon, il est toujours lié au club, mais avec une certaine distance.
D'accord. Voilà.
Mais il fait partie, en effet, des personnages de ce club, des personnages emblématiques de ce club. Comme Sepp Maier, vous allez peut-être en parler,
Gerd Müller aussi. Bien sûr, et le buteur. Jean-Philippe Bouchard, dans ce livre qui s'appelle Bad Boys du foot, il y a d'autres joueurs du Bayern qu'on croise, qui sont la génération suivante d'ailleurs, et parmi eux, il y a un grand joueur des années 80-90 qui s'appelle Lothar Matthäus. Est-ce que vous pouvez commencer par nous le présenter? Qui était Lothar Matthäus, Jean-Philippe Bouchard?
Lothar Matthäus, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire allemande. Il a fait deux séjours au Bayern, d'abord entre 84 et 88, et puis après entre 92 et 2000. Il était évidemment capitaine du Bayern, il était capitaine de la sélection allemande. Il faut savoir que le Bayern a presque toujours été le plus gros pourvoyeur de joueurs en sélection, donc il y avait une ossature du Bayern de Munich qui se retrouvait en sélection, et Matthäus, c'était le patron de ces deux équipes-là. Et puis par ailleurs, il avait aussi un rôle extrêmement habile pour manipuler ses entraîneurs, les médias, et voilà, parce qu'il était un grand pourvoyeur d'informations auprès notamment du quotidien Bild.
Paraît-il que c'est un peu une taupe,
qui balançait un peu toutes les infos sur l'équipe.
Jean-Philippe, dans le livre Bad Boys du foot, il y a beaucoup de joueurs du Bayern Munich. C'est une équipe de bad boys, le Bayern Munich, Jean-Philippe?
Je l'ai pas fait exprès, mais en fait j'ai constaté que effectivement c'est le club qui en produit le plus pour moi. Donc devant le Real et Manchester United.
Qui c'est que tu as mis, Jean-Philippe? Tu as mis qui?
Alors, il y a Oliver Kahn.
Alors dans le Bayern, il y a donc Breitner.
Voilà.
Il y a Pfaff, Jean-Marie Pfaff, qui a fait un petit passage. Il y a Harald Schumacher,
oui, bien sûr.
De sinistre mémoire. Lothar Matthäus, évidemment. Hein, Kahn.
Il y a Oliver Kahn aussi, gardien, le gardien, évidemment.
Voilà, Oliver Kahn. Et puis Stefan Effenberg, qui était quand même un aboyeur de première.
Alors, Vicente, puisqu'on parle de Lothar Matthäus, il est quand même arrivé une affaire assez incroyable entre vous et ce grand joueur de football. Donc vous arrivez en 97 en Bavière, vous allez être champion du monde en 98. Lui est sur une carrière finissante. Et puis, il y a eu une affaire entre vous deux qui a fait la une des gazettes sportives du monde entier. Vous lui avez collé une claque, une gifle à l'entraînement. Qu'est-ce qui s'est passé, Vicente, avec Lothar Matthäus?
C'est un peu classique, ça arrive souvent. Une embrouille à l'entraînement, des mots qui fusent, et puis on se rapproche, et là il me met la main à la gorge, et je lui en ai une. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Mais très bien.
Voilà, c'était juste faire respecter mon espace. Ouais. Après, Lothar est un immense joueur et emblématique de l'Allemagne et du Bayern. Et c'est vrai que par moments, il voulait s'imposer coûte que coûte, par des mots forts. Enfin, il voulait toujours s'imposer d'une certaine façon. Donc, de temps en temps, il fallait lui montrer...
Une résistance.
Une existence. Et ce jour-là, je lui ai montré que j'étais
là. Le Basque est présent.
Et il a compris. Voilà.
Jean-Philippe Bouchard, un mot sur l'affaire de cette gifle.
Oui, alors ce qui est symptomatique avec cet événement, c'est que en fait il y a un personnage dont on n'a pas du tout parlé dans l'équipe dirigeante du Bayern. On a parlé Beckenbauer, Rummenigge, d'Uli Hoeness, mais il y a un personnage qui a été très très important ces 40 dernières années, c'est Markus Hörwig, qui était le chef de presse du Bayern et qui était un ancien journaliste de Bild justement et qui sortait des infos. Et le Bayern très intelligemment a décidé de le recruter et en lui demandant d'organiser justement toute la communication autour du club. Et son intelligence, ça a été de pas du tout cacher tous les petits débordements, tous les petits scandales qu'il pouvait y avoir,
au contraire,
d'en faire ses choux gras. Et typiquement la claque que Vicente a mis à Matthäus, et ben elle a été filmée parce que les entraînements ils étaient ouverts.
Oui, donc on a
ça
les images.
Ça s'est su. Mmh. Voilà. Et donc ça fait parler du Bayern finalement. Et la transparence qui a été permanente autour du club ces 30 dernières années, c'est Markus Hörwig qui l'a organisé. Et elle a beaucoup, beaucoup contribué aussi à la popularité du club.
Et alors, tous ces soubresauts, Jean-Philippe, de vedette, de clash, entre guillemets, a donné naissance à une sorte de surnom. C'est pas trop d'où ça vient. À propos du Bayern, on appelle ça le FC Hollywood.
Markus Hörwig, précisément.
Le FC Hollywood dans les années 90. Mais Vicente, il n'aime pas trop.
C'est Markus Hörwig qui a donné ce nom-là. Non, en fait.
C'est pensé, ça a été organisé comme ça.
Ouais. En fait, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Philippe sur le fait qu'il y a une espèce de transparence sur les problèmes qui existent dans tous les vestiaires. Mm-hmm. Hein, parce que moi,
bien sûr,
l'embrouille que j'ai avec Lothar, il y a eu d'autres joueurs, Franck Ribéry, plein d'autres joueurs qui ont eu des embrouilles à l'entraînement. Il y a eu d'autres frasques de certains joueurs du Bayern, mm-hmm, privés ou autres, bref. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine transparence, mais ce que je tiens à dire, parce qu'on parle du FC Hollywood donnant l'impression que c'était le grand n'importe quoi.
Oui.
Mais quand il y a un problème, il est géré vite au Bayern. Mm-hmm. Mon problème, en une semaine, il a été réglé, il a été arbitré, je dirais, de façon très classe et normale, c'est-à-dire de façon neutre. Chacun partageait la responsabilité de ce qui s'était passé, parce qu'ils auraient pu prendre simplement la défense de Lothar Matthäus par rapport à son statut à l'époque.
Bien sûr.
Donc ça a été très bien arbitré, surtout ça se gère très vite. Et donc les problèmes au Bayern, il y en a, comme dans tous les autres clubs, sauf qu'on ne les laisse pas traîner, on ne les laisse pas s'envenimer, on ne laisse pas se pourrir. Et c'est ça la force du Bayern, c'est que il sait avancer malgré les problèmes.
Jean-Philippe Bouchard, un mot.
Oui, en fait, la spécificité de ce club, c'est qu'il ne nie jamais les problèmes. On met pas la poussière sous le tapis. On dit, ok, ça existait. Et oui, c'est pas grave. On va gagner quand même.
Il fait forcément à la fin, c'est toujours comme ça. Fabien Archambault, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui le Bayern de Munich en Allemagne? On sait que c'est un pays fédéral où le Land est très important, donc c'est l'équipe de la Bavière. Mais qu'est-ce qu'on a commencé par raconter le Bayern au début du XXe siècle? Qu'est-ce que c'est que le Bayern dans la société allemande du début du XXIe siècle?
Alors, une première chose, ce serait, c'est ce miracle économique allemand, ça a été aussi le miracle économique bavarois.
Et oui.
C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, la Bavière, c'est pas une région riche en Allemagne. C'est une région rurale et qui est plutôt à l'écart de l'industrialisation. Les grandes régions, c'est la Saxe, c'est la Ruhr, c'est autour de Berlin, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe dans les années 60-70, c'est tout ce tissu de petites et moyennes entreprises qui sont sous-traitantes des multinationales de l'automobile ou du textile avec Adidas, etc., qui s'enrichissent de manière spectaculaire. Et comme vous l'avez dit, il y a un système de sociaux, c'est-à-dire que l'économie du club est fondée d'abord, à l'origine, sur des petits actionnaires individuels qui
donc chaque
eux-mêmes
supporter a un petit bout du club, hein, voilà, c'est ça. Le socio, c'est ça. C'est que, et donc, ils sont près de 300 000, donc ils possèdent le club quasiment.
Et à partir du moment où ils deviennent très riches, et le club mécaniquement s'enrichit. Et donc, il finit par symboliser voilà, cette réussite de la Bavière à l'intérieur de l'Allemagne. Ensuite, après, il a un peu un destin à la Juventus de Turin. C'est que ça devient une sorte d'équipe nationale bis.
Et, oui.
Et comme pour la Juventus, c'est ce que disait Bichente tout à l'heure, c'est que dans un pays où il y a de forts particularismes régionaux, le club est admiré parfois, il est respecté toujours, il est haï énormément dans la Ruhr, à Berlin, etc. Mais ça renvoie à l'histoire... De l'Allemagne, où les régions ont toujours été très fortes. Hein, jusqu'en 1919, la Bavière a un État indépendant dans le Deuxième Reich allemand.
Michel, pour finir, un mot sur la section féminine, parce qu'il y a aussi des joueuses au Bayern Munich qui sont trois fois championnes d'Allemagne, 76, 2015, 2016. Quelle place elles occupent dans le club, les joueuses du Bayern Munich?
De plus en plus importante. La place n'était pas si importante à mon époque, parce que c'est le développement, le début du développement du football féminin. Mais là, aujourd'hui, il y a une volonté du club de développer le football féminin. Il y a aussi une section basket.
Basket, absolument.
Qui est très importante. Et donc, comme je dirais partout en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et même en Italie, les clubs mettent une partie de leurs moyens pour développer le football féminin. Donc ce n'est que le début. On a pu assister pendant la Coupe du Monde en France à cette progression, mais c'est en marche.
Et un titre dès 76. Donc le football féminin en Allemagne existait déjà. Il y avait un championnat en 76. C'était il y a longtemps. Donc c'est bien de le souligner. En tout cas, merci à vous trois d'être venus ce soir. Je rappelle le titre du livre de Jean-Philippe Bouchard, Les Bad Boys du foot. On y croise quelques joueurs du Bayern. Donc procurez-vous les écrits aussi de Fabien Archambault consacrés à l'histoire du football, notamment le football des nations. Et vous retrouverez Bichente Lizarazu sur les antennes du groupe, puisqu'il est devenu consultant en football sur nos antennes. C'est l'esprit Radio France, la qualité et la confiance. Et on vous retrouve aussi tous les dimanches soirs à 19h sur France Bleu pour Planète Lisa. Merci beaucoup à vous deux. On continue maintenant avec Pierre-Étienne Minonzio. Bonsoir Pierre-Étienne.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors qui est à l'affiche ce soir?
Eh bien, comme les championnats d'Europe de handball féminin ont débuté au Danemark jeudi dernier et que la France est tenante du titre, je vais vous parler d'une cadre des Bleus, Estelle Enze-Minko. À 29 ans, cette arrière-gauche a déjà remporté avec la sélection une médaille d'argent olympique, un titre mondial et donc un titre européen il y a 2 ans.
Un sacré palmarès.
Oui, et hors des terrains, Estelle Enze-Minko impressionne par ses multiples activités. Cette diplômée d'une école de communication qui évolue tout au long de l'année dans un club hongrois a développé récemment le concept de la V-Box. Il s'agit de coffrets surprises livrés par abonnement contenant majoritairement des produits éthiques réalisés par des entreprises françaises fondées par des femmes. Une manière de défendre à la fois l'écologie, le féminisme et le Made in France.
Mais alors, est-ce que cette handballeuse engagée a un rapport particulier avec la musique?
Oui. Écoutez ce qu'elle disait aux Parisiens en 2018. « Je ne peux pas vivre sans musique. Elle rythme ma vie et mes humeurs. Je la vis intensément. » Estelle Enze-Minko débute d'ailleurs chacun de ses échauffements en écoutant des morceaux euphorisants qu'elle affectionne, comme l'excellent « Time to Dance » de The Chooses.
Bon, c'est assez classique qu'un champion ou une championne écoute un titre électro avant de performer, comme on dit à l'équipe.
Certes, mais Estelle Enzeminko n'est pas seulement une mélomane avertie, c'est aussi une pratiquante assidue. Même si elle n'a pas reçu de formation musicale, elle s'est essayée au piano, au ukulélé et surtout à la guitare. C'est avec cet instrument qu'elle s'est illustrée dans une vidéo tournée par Bein Sport pendant les championnats d'Europe 2016, où on l'entendait reprendre Love Yourself, un tube intimiste de Justin Bieber.
Baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Et alors, est-ce que Estelle Enzeminko s'est risquée à la composition?
Oui. Lors de la saison 2012-2013, alors qu'elle évoluait à Nîmes, poussée par sa coéquipière Chloé Bulleux, elle avait composé et enregistré un titre nommé « Liberté chérie ». Un clip avait même été tourné, que je n'ai pas réussi à retrouver sur Internet. Bon. Malgré tout, en surfant, je suis tombé sur une version acoustique datant de 2016 de « Liberté chérie ».
Salut, c'est moi. Ok, tu me remets pas. C'est pas bien grave, c'est du passé. On s'est connu il y a des années. Putain, c'est fou, t'as pas changé. Qu'est-ce que t'es belle, t'as pas idée. J'aimerais tellement te ressembler. Ok, c'est bizarre, je sais. Liberté chérie. Il y a longtemps, on disait liberté chérie. Ouh, la liberté chérie.
Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, Estelle Enzeminko continue de diffuser ses propres compositions, Pierre-Étienne ?
Non, malheureusement. Ah. Parce qu'elle ne veut pas être enfermée dans le cliché réducteur de la handballeuse chanteuse.
D'accord.
Pourtant, la musique continue de tenir une place essentielle dans son quotidien. Et quand on l'interroge sur les morceaux favoris de sa playlist, Estelle Enzeminko accepte évidemment de les partager. En 2018, elle avait ainsi confié sa passion pour devenir immortelle du rappeur canadien Loud. Un titre qui ressemble assez bien à cette championne.
Promis sur ma tente, j'aurais promis sur le temps, t'es ma story, mon encore. Oh, 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 y'a rien d'inutile. Love is in the little things.
Je demande pas grand chose. Je voulais seulement devenir immortel avant de mourir. Je voulais seulement devenir immortel avant de mourir. Survivre à tous mes ennemis mortels avant de mourir. Je voulais seulement.
Alors pourquoi dites-vous que cette chanson ressemble à Estelle Enzeminko?
Parce qu'elle raconte l'histoire d'une personne passionnée de musique qui rêve d'atteindre la réussite et la notoriété tout en restant fidèle à ses valeurs. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à Estelle Enzeminko et à l'équipe de France dans ce championnat d'Europe.
Merci Pierre-Étienne et bien sûr, longue route au bleu au Danemark.
Bonne soirée.
Salut, à la semaine prochaine. Et voilà, cette 14e émission a été mise en onde ce soir par H2M. Merci Mutel, Marco, merci à lui, merci à Clément Berman qui était à la technique avec lui. Merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire d'une immense championne française, une pionnière, une des toutes premières femmes pilotes automobiles. Elle s'appelait Hélène Nice, grande figure sportive oubliée des années 30. Vie et destin d'Hélène Nice, rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.